Et voici aujourd'hui l'économie avec le jeune Bruno Faure. Bonjour Bruno.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Un rapport très attendu aujourd'hui alors que les dirigeants de la planète sont mis en accusation sur le dérèglement climatique. Les experts du GIEC réunis à Monaco vont dire où sont nos océans et ce qu'on appelle la cryosphère, la surface de la Terre où l'eau est présente à l'état solide. Autrement dit, les zones glacées, à commencer par les régions arctiques, riches en ressources naturelles, et où le réchauffement général fait les affaires de certains.
Les Russes, les Chinois, les Américains, les Canadiens et les Européens, tous les riverains de ces immensités qui entourent le pôle Nord y ont des intérêts de plus en plus grands, car le climat y est de moins en moins hostile. Au sud-ouest du Groenland, par exemple, en mer de Bering, en mer de Barents, même à l'intérieur du cercle polaire, il n'y a parfois plus de glace en hiver. Les navires commerciaux ou militaires peuvent donc circuler plus facilement, même s'il y a des nuances. Dans d'autres régions, type mer d'Okhotsk, au nord du Japon, la glace est encore plus présente qu'avant. Mikko Mered, qui est un grand spécialiste de la géopolitique de ces zones polaires, avec qui j'ai pu longuement discuter hier, me disait aussi que parfois, au cœur de l'océan Arctique, il y a moins de banquises l'été, mais pas forcément moins de risques. Les icebergs dérivants peuvent compliquer le trafic maritime. Et c'est là, dit-il, qu'intervient la technologie, des investissements très lourds pour repérer les dangers. Algorithmes à l'appui facilitent, comme la fonte des glaces, le passage des bateaux.
Effectivement, les grandes puissances mettent de plus en plus d'argent pour conquérir l'Arctique.
La Russie en premier, me disait Mikko Mered, mais progressivement rattrapée par la Chine. Elle aussi captivée par ce que certains appellent déjà la route de la soie polaire. Pourquoi Moscou et Pékin prennent-ils de l'avance? Parce que ce sont des financements étatiques via des fonds souverains ou des sociétés contrôlées par le pouvoir. Certes, Gazprom, CNPC et les autres vont puiser le pétrole et le gaz, mais il y a aussi une énorme dimension stratégique. La Russie, notamment, se considère comme le pont entre l'Europe et l'Asie et ne peut laisser à personne d'autre le contrôle de la route du Nord. Les Américains, les Canadiens, les Scandinaves, m'expliquait Mikko Mered, agissent davantage dans une logique de rentabilité. Le gouvernement américain déploie moins d'efforts en Alaska que ne le fait la Russie dans les mers froides. Ces dernières semaines, de Saint-Pétersbourg à Vladivostok, de forum économique en forum économique, les annonces sont multipliées avec un effet boule de neige, les investissements appelant les investissements, projets gigantesques pour extraire et transporter par bateau le gaz naturel de la Sibérie vers l'Asie en coopération avec la Chine. Et avec le français Total, 21 milliards de dollars pour le projet Arctic LNG 2. De nouveaux brise-glaces vont être construits, capables de naviguer 12 mois sur 12. C'est désormais possible.
Au passage, Bruno, il faut de l'énergie pour faire fonctionner toutes ces infrastructures dans des zones qui sont très isolées.
Oui, la Russie a du pétrole, mais aussi des idées pour alimenter en électricité les plateformes et autres installations. Elle vient de développer une première centrale nucléaire flottante. En réalité, c'est un ancien navire de l'Union soviétique chargé en combustible qui envoie son énergie grâce à des câbles reliés à la terre ferme. L'académique Lomonosov, c'est son nom, est d'ailleurs qualifié par Greenpeace de Tchernobyl sur glace. Mais il n'y a pas que le nucléaire, on développe aussi la géothermie, l'hydroélectricité ou encore l'éolien dans ces régions que vous imaginez effectivement battues par les vents.
Dernière question Bruno, où et quand va s'arrêter cette course à l'Arctique?
Forcément impossible de le dire, les ressources véritables sont mal connues, mais on sait que l'on y trouve maintenant du schiste, du sable bitumineux, des terres rares, minerais de nickel, de cobalt, développement de la pêche, de l'aquaculture par la Russie et par la Norvège et même du tourisme au nord de la Laponie, au Groenland. Tout ça, d'une certaine manière, grâce au réchauffement climatique.
Merci à vous, Bruno Faure.